Alim et Evelyne viennent de nous rejoindre. Donc bonjour Evelyne.
Bonjour.
Alors, tu peux parler en face du micro.
Bonjour.
Voilà, bonjour, bonjour Alim.
Bonjour.
Et donc nous allons tout de suite démarrer sur la situation au Béni-Lablo. Voilà, donc là on est plus nombreux qu'il y a de micros dans le studio. Donc Erika.
Oui, alors bon, on s'était dit qu'on allait parler de deux points assez cruciaux de l'actualité du Mesnil, qui concernent principalement les familles qui sont placées et les mineurs, qui ne sont donc pas placés en famille, mais tout seuls. De mon côté, je vais parler des familles et Clémence abordera celle des mineurs. Il y a une actualité juridique qui a entraîné la situation actuelle au centre de rétention. Je ne sais pas s'il est clair pour tout le monde quelle est la situation entraînée par le règlement Dublin 3, ou les personnes qu'on dit dublinées ou dublinables. Alors, le règlement Dublin 3 est un règlement européen qui prévoit que l'État en charge de la demande d'asile. Donc du traitement de la demande d'asile de la personne et l'état par lequel la personne est entrée. C'est-à-dire, dans les faits, c'est l'état dans lequel la personne a donné volontairement ou non ses empreintes. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui sont demandeuses d'asile en France sont placées en rétention pour pouvoir être transférées dans l'état qui est dit responsable du traitement de la demande d'asile. Bon, c'est un peu compliqué, j'espère que vous avez bien compris. Il y a très peu de temps, le 27 septembre dernier, la Cour de cassation a dit qu'il était illégal de placer ces personnes sous la procédure Dublin 3 en centre de rétention. Pourtant, on voit énormément de gens placés en rétention qui sont sous cette mesure de transfert, et notamment énormément de familles. Énormément de familles. C'est-à-dire qu'il y a depuis 2 mois et demi, bien sûr, on n'est pas encore à la fin du trimestre, ça va continuer à évoluer, les chiffres que je vais vous donner, on en est à plus de 20 familles qui ont été placées depuis octobre 2017.
Okay, ma famille, quand tu dis famille, c'est famille avec enfants.
Famille avec enfants, évidemment, dont 17 familles qui ont été placées. Sous le régime donc de la procédure Dublin dont je viens de vous parler. Donc, ces personnes-là ne sont pas censées être en rétention. Il est illégal que les préfectures les placent en rétention en l'état actuel du droit.
Voilà, parce que le droit peut changer avec la loi à venir dont on avait juste sifflé les mots la semaine dernière.
Exactement.
Donc avec cette nouvelle loi qui pourrait arriver, la rétention, donc on pourrait placer en rétention à titre préventif des déboutés du droit d'asile et des gens dublinés.
Exactement. Donc le projet de loi compte pallier à la problématique qu'a soulignée la Cour de cassation et qui était soulignée un peu avant par la Cour de justice de l'Union européenne et rendre régulière et légale le placement de ces personnes. Donc je vous expliquais qu'on en était à une vingtaine de familles, ça risque de continuer comme ça. En ce moment même, il y a une famille avec 6 enfants au centre de rétention. Cette fois, il ne s'agit pas d'une famille sous la procédure Dublin. Si, pardon, excusez-moi. Il s'agit bien d'une famille sous procédure Dublin. C'est une famille de nationalité afghane avec 6 enfants de 16 à 5 ans. Ils ont vu tous les juges possibles qui ne les ont pas libérés. Ils ont soumis une requête à la Cour européenne des droits de l'homme qui a répondu hier en posant 3 questions au gouvernement français. Une question quant à la possibilité d'alimentation des enfants, une question quant à l'accès au traitement et à la santé au centre de rétention, et une 3e question... la possibilité d'avoir recours à une mesure moins contraignante que la rétention pour parvenir à l'objectif. Voilà. Le gouvernement français devait répondre aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en est encore, mais hier, la famille était toujours là.
Ok. Et donc, il y a, on a aussi quelque chose, c'est quand vous m'en avez parlé, j'ai été tout à fait surpris, sans vraiment être surpris, c'est qu'on a des mineurs aussi qui sont isolés, hein, des enfants qui sont isolés et qui sont placés en rétention.
Alors oui, s'ils sont placés en rétention, justement, c'est parce que leur minorité, elle est remise en cause. Donc la rétention, ça arrive là, à ce moment-là comme le bout de la chaîne de toute la logique de contestation de minorité et de refus de prise en charge à l'ASE. Donc là, nous, sur le mois écoulé, on a quand même eu 4 jeunes qui se déclaraient mineurs, qui ont été placés en rétention. On a 3 qui y sont encore, donc pour... Enfin, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais on a un premier jeune algérien qui, lors de son interpellation, a déclaré sa vraie date de naissance. La police n'en a pas tenu compte, il n'avait pas de papier, donc la police a déclaré qu'il était majeur, né le 1er janvier 99, la fameuse date qu'on voit très très souvent lorsque la date de naissance d'une personne n'est pas clairement établie, on les met au 1er janvier 99 comme ça. On est sûr qu'ils sont majeurs. Et il a été placé en rétention, alors même qu'il avait déclaré en audition au commissariat sa vraie date de naissance. Là, pour l'instant, il a vu tous les juges. Il s'est fait ramener son acte de naissance. Ça n'a pas suffi à convaincre les différents tribunaux. La seule victoire qu'on a pour l'instant, c'est qu'alors qu'au début de son placement en CRA, il était placé dans la zone homme avec les hommes adultes. Là, il a réussi à se faire placer en zone famille. Parce que c'est la zone homme, pour lui, c'était un petit peu difficile, quoi. Donc on a ce jeune-là. On en a 2 qui sont arrivés aussi il y a 2 semaines maintenant, presque 3, qui sont 2 jeunes Guinéens, qui en fait, eux, sont des primo-arrivants, sont arrivés il y a vraiment quelques semaines en France, se sont présentés directement aux services sociaux pour demander une protection de l'ASE en tant que mineurs. Ont été soumis à la fameuse évaluation avec une mise à l'abri de 5 jours pour déterminer leur minorité. Et alors là, on est dans quelque chose d'assez fort. L'évaluation de minorité a remis en cause la minorité, conclu à la majorité. Et c'est la structure où ils étaient hébergés qui non seulement les a mis dehors, mais en fait a prévenu la police qui est venue les interpeller au sein de la structure d'accueil. Donc là, C'était plutôt fort. Ces 3 jeunes là dont je vous parle, ils sont tous les 3 placés par la même administration qui est la préfecture de Lyon. Ça vaut le coup de le signaler, de signaler les préfectures qui ont ce genre de pratique. Tu veux dire quelque chose ?
Oui, mais Erika, tu voulais aussi intervenir.
Oui, je voulais juste ajouter quelque chose sur le placement des familles, parce que c'est important de souligner aussi les pratiques des préfectures. On en est à... une dizaine de familles placées par la préfecture de Paris le soir, juste au moment où l'association qui intervient en rétention, donc la CIMAD au Ménil-Amelot, part, et avec des vols tôt le matin avant que nous arrivions, et donc sans qu'on puisse sans qu'ils ne puissent avoir accès au droit, au point de droit.
Voilà. Et sinon, en revenant sur les... Donc sur le département de Lyon et sur les jeunes qui sont arrivés balancés, parce que c'est, il n'y a pas d'autre mot, hein, balancés par la structure qui faisait leur évaluation.
C'est ça.
Si on donne le nom de la structure, ça ne sera pas une dénonciation calomnieuse.
Alors je ne sais pas si la CIMAD, on peut vraiment le faire, mais c'est la structure.
Non. Bon, si,
c'est
si,
assez facile d'aller voir la structure qui est chargée de l'accueil et de la première évaluation de la minorité dans le département.
D'accord, et ben on ira voir.
Mais enfin, nous, c'est surtout au niveau des placements par les préfectures qu'on a envie de réagir, parce que nous, c'est ça notre cœur de métier. Donc quand on voit la préfecture de Paris qui met les familles en rétention à tour de bras, et la préfecture de Lyon qui réserve ce traitement-là aux mineurs. Bon, c'est plus là-dessus que nous, on a envie d'intervenir, parce qu'après, on ne sait pas ce qui se passe en interne dans les structures sociales et tout. Mais du coup, pour finir, on a quand même une jeune, parce que cette fois-là, c'était une fille qui s'en est bien sortie. Et c'est vous dire à quel point les préfectures sont quand même pas sympas. Il s'agissait d'une jeune qui était mineure, qui était congolaise, qui était arrivée avec sa grande sœur, et qui, en fait, elle, dès l'arrivée, était allée en préfecture avec sa grande sœur pour demander l'asile. Et la préfecture avait refusé d'enregistrer sa demande en disant « Bah non, t'es mineure ». Et quelques semaines plus tard, épuisée à la rue avec sa sœur, elle se rend au commissariat pour demander de l'aide parce qu'elles étaient malades et dans un état d'épuisement alarmant. Et bah là, pour le coup, la préfecture ne considère plus qu'elle est mineure quand il ne s'agit plus d'enregistrer sa demande d'asile, mais la considère majeure, l'interpelle et la place en rétention. Elle, le seul juge qu'elle a eu le temps de voir a prolongé sa rétention, c'était le JLD. Il a considéré que la...
juge des libertés de la détention. Parce
le
que
juge des libertés de la détention.
On peut quand même rappeler très vite qu'on passe devant deux juridictions.
On passe devant le juge des libertés et de la détention qui contrôle la procédure, la régularité de la procédure et la légalité du placement en rétention. Et on passe ensuite seulement si on fait un recours, si on en a si on peut, si on est dans les délais, on passe devant le tribunal administratif qui, lui, va en fait juger de la légalité de la mesure d'éloignement.
Voilà.
Voilà, désolé, c'est jargon. Et donc, en fait, cette jeune fille, le tribunal ne l'a pas libérée, la cour d'appel non plus. Mais par contre, elle a introduit une demande d'asile depuis le CRA en procédure accélérée. Et l'OFPRA, donc l'office responsable de l'instruction des demandes d'asile, a reçu le dossier avec en copie l'acte de naissance qu'elle avait, a décrété que cette jeune fille était mineure et qu'il était hors de question qu'ils instruisent sa demande d'asile au CRA dans ces conditions alors même qu'elle était mineure. Et c'est grâce à ça qu'elle a été libérée. Donc c'était quand même un petit peu la bonne nouvelle, mais globalement, là, sur ces situations, qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce que ça nous montre ? C'est que toujours, on est dans cette logique, là, vraiment poussée à l'extrême, de mensonges et de suspicions de fraude des jeunes, puisque avec ou sans acte de naissance, selon les cas, ils sont présumés majeurs, alors que le doute est quand même censé leur profiter. Surtout, qu'est-ce qu'on voit ? La criminalisation de ces jeunes, parce qu'ils sont tous les trois arrivés au CRA du Ménil-Amelot après des gardes à vue, pour usage de faux documents, falsification de documents ou que sais-je encore. Dans la même logique, on peut quand même rappeler qu'on a vu d'autres préfectures, notamment, je crois que c'est le Rhône qui avait lancé le truc il y a quelques années, qui lançait des poursuites pénales contre certains mineurs isolés étrangers. Donc voilà, on observe ça, ce traitement des mineurs isolés étrangers qui continue, cette suspicion constante. Et puis là, ce qu'on a vu vraiment, c'était l'enfermement de ces jeunes dans un endroit qui n'était pas adapté, parce que pour certains, ils étaient quand même fragiles, c'était des enfants. Un des jeunes Guinéens, il a 15 ans, il y est toujours. Et là, potentiellement, ces jeunes, on leur fait du mal. On les traumatise. Enfin, l'état dans lequel ont été ces jeunes lorsqu'ils sont arrivés au CRA, c'était inquiétant.
Voilà, c'est des... Et sinon, pour cette jeune fille congolaise dont tu parlais, qui était avec sa grande sœur, la grande sœur, elle a été déclarée majeure ou mineure, et on a séparé la fratrie, ou elles sont toujours ensemble ?
Alors là, elle a été libérée, elle a rejoint sa sœur, elles sont toutes les deux dans l'est de la France. La sœur, elle avait réussi à instruire sa demande d'asile, et donc les deux sont ensemble là. Et suite à la sortie du CRA, on a été en contact avec la grande sœur, à qui on a filé la marche à suivre pour que la petite sœur puisse demander l'asile avec un administrateur ad hoc. Donc avec quelqu'un, un adulte qui sera désigné responsable pour l'accompagner.
D'accord. Et donc quand on veut parler des conditions à l'intérieur du centre de rétention, il faut aussi savoir que la plus... Enfin, je parle, mais c'est vous deux, hein, Ali et Atef, qui me disent si je dis des bêtises ou pas, parce que moi je ne suis jamais entré dans un centre de rétention autrement que comme visiteur. Hein, mais c'est, et vous aussi, toutes les deux, d'ailleurs, vous connaissez bien le centre de l'intérieur, mais la première chose qui est insupportable dans un centre de rétention, c'est qu'on est enfermé, on ne sait pas comment on sort, on ne sait pas quand on sort, on est enfermé pour aucune raison objective, si ce n'est de ne pas avoir les papiers que l'administration demande. C'est déjà une situation qui est épouvantablement angoissante. Ensuite, je crois que les situations sont pas bonnes. Enfin, je lisais tes textes, Alif, et c'était Atef, pardon.
Alors, si je peux résumer tout ça dans un mot, c'est l'incertitude. Mm-hmm. Ça, c'est la première sensation que vous connaissez quand vous arrivez au CRA. L'incertitude. Vous ne savez pas ce qu'il y a après le couloir. Vous ne savez pas combien de jours vous allez rester là, vous ne savez pas comment ça va se passer, vous ne savez rien. Et du coup, c'est pas une renaissance, c'est même pas... C'est vous êtes juste là et vous n'avez aucun repère. Vous arrivez, on vous montre, on vous dit ça c'est les locaux de la CIMAD, ça c'est l'OFI, ça c'est... Vous arrivez, vous trouvez un tas de monde, des âges différents, comme elle vient de parler, donc des mineurs, des familles... Des adultes, mais des adultes de 18 jusqu'à 70 ans. Donc les origines différentes, les vies différentes, les passés différents. Donc tous ces gens-là font un mélange d'histoires, mais tous qui vont vers l'inconnu. Donc vous arrivez là, vous êtes privé d'un minimum de raisonnement parce que vous n'arrivez pas à raisonner. Et ensuite, si je parle de l'emplacement du CRA, il est juste à côté donc, de l'aéroport. Donc la nuisance sonore... Les têtes sont, on va dire, Il n'y a même pas de grimace, il n'y a pas de sensation sur les visages des autres. Donc vous arrivez, c'est... croyez-moi, ça ressemble beaucoup à des images de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, et je ne veux pas te donner de détails, mais c'est des images, vous arrivez dans un endroit où l'incertitude et le désespoir règnent en maître. Après, il y a des discussions dans le vide, ça rentre par là, ça sort par là, et chaque jour, vous ne savez pas si vous allez le finir le jour dans le centre, si vous allez rester en France, si vous allez retourner chez vous. Donc c'est vraiment, on est désorienté, voilà le mot, sur tous les plans. On n'a pas nos repères, ni sanitaires, ni physiques, ni amicaux, on n'a aucun repère, on arrive là. Et on nous dit, voilà, il y a la CIMAD, il y a l'OFI, et puis voilà. Ça démarre et c'est une micro-vie, c'est une étape de notre vie, les jours au centre. Mais on planche, on n'arrive pas à être né dans cette vie pour grandir, évoluer, apprendre. Là, on planche dans une autre dimension pendant je ne sais combien de jours. Et puis, on en sort un choc d'entrée, un choc de sortie. Parce que peut-être l'entrée est la plus acceptable, on est dedans. Mais même après la sortie... Le CRAI ne s'arrête pas à l'enfermement des familles ou des adultes ou des mineurs. Il s'arrête à l'enfermement de toute ta partie humaine, en réalité. Après, le reste, c'est pas très... On va dire, c'est que des typifications. Genre homme, femme, famille, âge, origine, tout ça, c'est important. Mais le plus important, c'est le côté humain qui reste à la porte du CRAI. Et qu'en sortant, on le trouve déstabilisé, on le prend avec nous, mais on ne sait pas si on le prend ou c'est ce côté-là qui nous prend. Après, on retourne à la vie normale, mais elle n'est plus comme avant, elle n'est plus normale, la vie. Oui, donc, voilà, le centre, je dis, voilà, c'est jamais une bonne expérience, peu importe l'issue. Moi, je vous dis, là, elle vient de parler de la fille qui est sortie. C'est vrai qu'elle est sortie avec une demande d'asile qui va peut-être aboutir à une situation quasi régulière. Mais les marques psychiques, en tous les cas, ne partiront pas.
Voilà, et tu as, et qui sont publiés sur le site de la CIMAD. Donc toi, tu as utilisé ton séjour au CRA en faisant, donc en le disant au début d'émission, en décrivant des textes qui sont, je veux dire, des grands textes, quoi.
Ce sont des textes qui reflètent tout simplement le quotidien. Ça me touche que vous trouvez ça grand, mais... La grandeur ou l'ampleur de la catastrophe qui se trouve là-bas peut vous inspirer, vous encourager. Il suffit juste de mettre un stylo sur une feuille et ça va tout seul. Vous voyez des choses, il y a de la matière. Et c'est que mon œil à moi et ma façon d'écrire, peut-être de raisonner, de voir les choses. Il faut voir les autres. Moi, j'avais peut-être le stylo et la feuille, j'avais peut-être le moyen de faire passer mon mot. Mais les autres aussi sont sortis avec... une matière, mais je ne sais pas comment ça va s'exprimer. Pour moi, ça a été ça. Ça a été le moment d'écriture. Pour les autres, c'est peut-être ils vont doubler d'efforts pour avoir les papiers. Pour des autres, c'est peut-être l'excuse valable pour quitter ce pays. Et pour des autres, et j'ose le dire, c'est le déraillement total. Parce que quand vous sortez avec tant de mépris, tant d'ignorance, tant d'isolement qui sort avec vous, l'issue ne peut pas être tout le temps favorable. Ça peut dérailler, surtout quand on est jeune, les mineurs. Ils rentrent là, ils sortent. Je suis désolé de dire, mais c'est un terrain fertile pour les mauvaises idées. Vous voyez, vous êtes dans l'enclos de l'ennemi, entre autres. Quand vous arrivez à 17 ou à 16 ans, quand vous entendez un peu les dits de tout le monde, ça va vous influencer. Si vous ne vous faites pas rattraper par les bonnes mains, c'est, voilà, vous êtes un terrain vierge et on peut semer n'importe quoi dans ce type de séjour, on va dire, d'enfermement.
Bah, l'enfermement est toxique, et surtout celui-là.
Celui-là, il est nuisible à l'humanité en général. Ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors. On est en train de briser des rêves, des liens, des espoirs. Les gens, ils ont traversé la mer à la nage pour venir jusqu'en France. Et ici, on les expédie pour retourner là-bas. C'est comme si vous sortez d'un puits, et au moment où vous arrivez au bord, moi, je vous donne pas la main, je vous coupe le bras. Même si vous en sortez encore une fois du puits, le choc, il est là, il devient un compagnon de vie.